Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Parcours libriste avec Agnès Crépet. On parlera notamment de technologie, de politique, de colonialisme, de sexisme, de logiciels libres et ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme une interview avec l'association Nos Oignons qui nous parlera du réseau Tor et aussi la chronique de Laurent et Laurette Costi qui nous parleront de mots de passe. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours et nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 4 juillet 2023. Nous diffusons en direct et sans écho maintenant. Mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Mélène Desnaux qui est en formation avec mon collègue Étienne. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
En tout cas, belle réactivité, merci à toi. Oui. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Alors, nous allons commencer par une courte interview avec l'association Nos Oignons qui va nous parler du réseau Tor. Nos invités, Shreux et Jivoisin, qui sont membres du conseil d'administration de Nos Oignons. Alors d'abord, on va vérifier que Shreux est en ligne. Bonjour Shreux.
Bonjour.
Et est-ce que Jivoisin est avec nous ?
Je suis toujours tout seul.
Ok, bon, on va commencer, hein, pas de souci. Hein. Alors, on va parler donc de Nos Oignons et du réseau Tor. Mais avant d'expliquer ce qu'est le réseau Tor et Nos Oignons, on va commencer par une question. En fait, quel est le problème ou les problèmes que Tor cherche à résoudre ? Shreux.
Alors en fait, y a une idée qu'on aime bien mettre en avant, c'est que lorsqu'on lit un journal, on s'attend pas à ce que le journal nous lise ou nous scrute en retour. Pourtant, c'est ce qui se passe quand on consulte un site web, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est pisté, tracé, suivi, et Tor permet de limiter, voire d'empêcher ça, et ça masque aussi l'origine de la connexion, c'est-à-dire le point depuis lequel on consulte Internet.
Donc ça permet notamment en fait de contourner la surveillance via les pisteurs des GAFAM, c'est ça, de Google, Facebook, Twitter et compagnie?
Voilà, c'est ça. Il y a des outils intégrés nativement qui permettent d'empêcher ça. Ça permet également de contourner les censures qui peuvent être mises en place dans certains pays. Par exemple, de base en France, il n'est pas possible d'accéder au site Sci-Hub. Eh bien, avec Tor, c'est possible.
D'accord. Alors Tor, donc c'est à la fois, si j'ai bien compris, un réseau, on va dire, mais c'est d'abord pour la personne utilisatrice, un navigateur. Donc c'est que fait le navigateur Tor et que déjà comment l'installer en fait ?
Alors le navigateur Tor, c'est en fait un navigateur qui est dérivé de Firefox. Donc quelqu'un qui connaît Firefox n'est pas du tout dépaysé. On le télécharge directement depuis le site du projet Tor, torproject.org. Il suffit de le télécharger et de le lancer, il n'y a pas d'installation. Et la particularité de ce navigateur, c'est qu'il est configuré par défaut pour que toutes les connexions réseau transitent par le réseau Tor. Tor, effectivement, c'est trois choses. C'est un protocole de communication, c'est un réseau de communication et la partie la plus visible, le navigateur en tant que tel.
D'accord. Alors donc, Tor, c'est une surcouche quelque part sur le réseau Internet. Comment ça fonctionne en fait ?
Alors en fait, c'est un protocole de communication sur Internet, comme il y a un protocole de communication SMTP pour le mail ou HTTPS pour le web.
D'accord, et il fonctionne comment ? Qu'est-ce qui garantit ? En fait, tu disais tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui étaient enlevés. C'est quoi le fonctionnement technique ? En essayant d'être évidemment assez simple d'explication, mais c'est quoi le fonctionnement technique ? Par rapport finalement à une connexion habituelle classique, si on utilise un navigateur Firefox classique, on se connecte à un site. Qu'est-ce qui va changer si on utilise le navigateur Tor par rapport à cette connexion ?
Alors, en fait, le navigateur Tor donc se connecte au réseau Tor. Le réseau Tor, en fait, c'est une communication informatique qui transite par trois ordinateurs intermédiaires. Le relais d'entrée, le relais intermédiaire et le relais de sortie. Et c'est cette architecture qui garantit l'anonymat de l'origine de la connexion. Les communications entre chacun des trois serveurs sont chiffrées, donc on ne peut pas, un tiers ne peut pas en prendre connaissance. Et chaque nœud ne voit que son point d'entrée, ce qui fait que le site web que l'on va consulter ne pourra pas déterminer l'origine de notre connexion. Le navigateur Tor embarque aussi nativement des extensions du type NoScript ou uBlock Origin qui vont bloquer également de base les pisteurs et les traceurs qui pourraient y avoir sur le site web qu'on consulte.
D'accord. Donc si je comprends bien, en fait, le site qu'on consulte, là, finalement, la seule information dont il dispose, finalement, c'est l'adresse IP du dernier nœud de sortie qui peut être situé n'importe où, en fait.
C'est ça, exactement. Il ne voit que le nœud de sortie qui peut être situé n'importe où dans le monde. Il y a aujourd'hui plus de 7000 relais Tor dans le monde, dont 2000 nœuds de sortie.
D'accord. Et donc, je suppose qu'il y a un algorithme quelque part qui permet de dire par combien de nœuds va circuler telle ou telle requête, ou est-ce que c'est toujours 3 ? Parce que tu as parlé de 3 tout à l'heure.
Alors, dans le protocole Tor, c'est toujours 3 relais. Hein, le protocole a été conçu comme ça, et l'algorithme détermine le chemin, c'est-à-dire le choix des relais. Et ce choix a une dimension aléatoire. Si j'ouvre un nouvel onglet dans mon navigateur Tor, ce deuxième onglet ne va pas utiliser le même chemin que le premier onglet, par exemple.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des limitations à utiliser le réseau, le navigateur Tor, par rapport au site qu'on veut consulter, par exemple ?
Eh bien, dans les limitations, le point principal, c'est le fait qu'on passe par 3 ordinateurs intermédiaires va ralentir la connexion au site web. Alors, donc c'est une connexion qui est plus lente qu'une connexion classique. Le fait est que désormais, avec l'évolution des infrastructures de réseau et donc l'augmentation sensible des débits, cette limitation, elle est quand même moins gênante, moins difficile que par le passé, mais elle est réelle.
D'accord.
Voilà, c'est essentiellement cet élément-là.
Alors, si j'ai bien su, parce que je suis quand même... Il y a une limitation aussi, par exemple, il y a des sites qui bloquent les connexions qui viennent du réseau Tor, notamment Wikipédia, par exemple. J'ai vu, alors je ne savais pas du tout que, par exemple, il est impossible de contribuer à Wikipédia quand on se connecte avec le navigateur Tor.
Alors, effectivement, c'est l'autre point qu'on avait noté, c'est qu'aujourd'hui, certains sites font le choix de bloquer systématiquement toutes les connexions qui viennent du réseau Tor. Le motif mis en avant, c'est que les connexions qui viennent de Tor seraient plus dangereuse, plus suspecte, plus louche qu'une connexion Internet classique. Et donc, d'un point de vue de l'administration, de la gestion des sites web, c'est facile de bloquer directement le trafic venant de Tor sans se poser de questions. Donc ça, c'est pénalisant pour les utilisateurs de Tor. Wikipédia l'a bloqué pour la contribution. Donc l'équipe du projet Tor a eu des discussions assez intenses avec eux. Mais aujourd'hui, l'équipe de Wikipédia n'a pas souhaité évoluer sur cette question-là pour éviter notamment le vandalisme d'articles.
Ouais. Ouais. Oui, tu as raison de préciser que c'est pour contribuer. On peut accéder à Wikipédia en lecture.
On peut consulter.
Voilà, on peut consulter.
Ouais.
Voilà.
Oui, tout à fait.
Donc ça, on a bien compris le réseau Tor, le navigateur Tor et l'association Nos Oignons. Alors, pourquoi ce nom et que fait l'association Nos Oignons ?
Alors, Nos Oignons, donc c'est une association française loi 1901, et l'idée de départ qui a germé, on va dire, sur la fin de l'année 2012, c'était de dire il faut contribuer activement au développement du réseau Tor et notamment augmenter le nombre de relais en France. La fiabilité, la pérennité du réseau Tor est liée au nombre de relais disponibles, notamment les relais de sortie. Donc l'association est officiellement parue au JO, au journal officiel, le 25 mai 2013, donc voilà, ça fait vraiment 10 ans. Et Nos Oignons, c'est un jeu de mots parce que le protocole Tor, on parle de communication en oignons, en couches d'oignons, c'est le système de chiffrement mis en place, et donc le jeu de mots oignons, Nos Oignons, voilà, c'est comme ça que est né le nom de l'association.
Oui, alors Bon, on va expliquer que Tor, c'est The Onion Router, donc littéralement en français, le routeur oignon.
C'est ça.
Alors, dernière question, comment aider nos oignons? Parce que initialement, l'idée de cette émission, c'est que vous avez publié une vidéo et un appel à financement. Donc, pour quelle raison cet appel à financement?
Eh bien, en fait, le principe, c'est qu'on collecte des fonds pour faire fonctionner ces relais de sortie en France et que là, on est dans une étape où on a besoin de renouveler notre trésorerie et nos stocks pour pouvoir maintenir la dizaine de relais que nous avons actuellement en fonctionnement. Et on souhaiterait continuer à développer, c'est-à-dire que si nos moyens financiers le permettent, d'ajouter de nouveaux relais en France. Et on a profité des 10 ans de l'association pour créer une petite vidéo explicative du fonctionnement de Tor et voilà, accessible à toutes et tous et qui se veut vraiment très pédagogique et pas technique. Voilà.
Oui, tout à fait. Alors, je renvoie les personnes qui nous écoutent sur le site de Nos Oignons, hein, c'est nos-oignons.net. Et effectivement, donc, il y a l'appel à financement. Et puis, il y a cette vidéo qui doit durer de mémoire 3 ou 4 minutes, qui est effectivement très, 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 qui met vraiment l'accent sur les problèmes de départ et sur les solutions. Vraiment, elle est super bien faite. Et je précise aussi que, donc là, on a fait une courte interview par rapport à l'actualité que vous avez, mais que dans la prochaine saison, la saison 7 de l'émission, on fera un sujet plus long, un sujet principal sur ce sujet pour rentrer plus en détail sur l'explication, les fonctionnements, les enjeux, notamment l'usage du réseau Tor pour notamment les activistes, militants, etc., pour les journalistes, et voilà. Là, c'était un sujet d'interview courte en actualité avec votre appel à financement et votre vidéo. Est-ce que tu veux rajouter une dernière phrase?
Eh bien, pas de souci. Pour ceux qui le veulent, on propose aussi des affiches et des cartes postales en contrepartie des dons. Voilà, donc vous pouvez voir tout ça sur notre site.
Eh bien, je renvoie tout le monde sur donc nos-oignons.net. Donc, et je remercie Shreux, donc, qui est membre du conseil d'administration de Nos Oignons, et que donc la prochaine saison, on consacrera un sujet principal sur ce thème de Tor, de Nos Oignons. Ben, Shreux, je te remercie. Je te souhaite une belle fin de journée.
Merci, bonne émission.
Merci, au revoir. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous aurons le plaisir d'accueillir Agnès Crépet pour une interview parcours libriste. En attendant, nous allons écouter Dancing Queen par Selig Oya. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Dancing Queen par Selig Oi, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions, CC by SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal intitulé Parcours libriste. L'idée est d'inviter une seule personne pour parler de son parcours personnel et professionnel. Un parcours individuel, certes, mais qui va bien sûr être l'occasion de partager messages, suggestions et autres. Notre invitée du jour, Agnès Crépet, responsable de l'équipe informatique et de la longévité logicielle de Fairphone, cofondatrice de Ninja Squad et de la conférence Mixit, membre de l'équipe de Duchesse France. On vous reparlera de tout ça, évidemment, dans le cours de l'émission. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Bonjour Agnès.
Bonjour, bonjour.
Alors, c'est un grand plaisir de t'avoir une nouvelle fois dans cette émission, mais là, pour un sujet un petit peu différent, vu qu'on va parler un peu de ton, enfin, on va parler de ton parcours. Alors, en général, la première question qu'on pose dans les sujets principaux, c'est une question de présentation traditionnelle. Même là, l'émission va être un peu consacrée à ton sujet. Mais ceci dit, j'ai envie de te demander comment tu te présentes quand tu es, par exemple, invité dans une, quand tu arrives dans une soirée ou quand tu rencontres des personnes et que ces gens te demandent ce que tu fais dans la vie. Qu'est-ce que tu leur expliques?
Ouais, ça peut dépendre un peu de l'audience, mais je dis que je travaille dans la tech, voilà. Après, je présente les boîtes pour lesquelles je bosse en ce moment, donc principalement Fairphone quand même si je fais partie de Ninja Squad, comme tu l'as bien présenté. Et j'essaye vite d'introduire un peu la spécificité de ces boîtes, quoi. Le fait que on essaye de travailler à une tech un peu différente, une tech plus inclusive, qui fait plus d'open source et qui est pas solutionniste, voilà.
D'accord.
Pour faire court. Hein.
Pour faire court. De toute façon, on va revenir là-dessus. Alors, on va pas évoquer tout ton parcours, mais j'aimerais quand même savoir. Alors, on va rien cacher. Tu es né dans les années fin des années 70, donc jeunesse, adolescence dans les années 80. Et quand tu étais jeune, est-ce que tu as rapidement voulu faire de l'informatique ou est-ce que tu étais intéressé par d'autres choses? Par exemple, dans les métiers que tu voulais faire, quels étaient les métiers que tu voulais faire à l'époque quand tu étais jeune?
Moi, je voulais faire médecin légiste. C'est bizarre, hein?
Ah, c'est bizarre, oui.
Je pense que je lisais des romans quand j'étais petite, autour des sorcières, des choses un peu glauques comme ça. Donc je voulais faire médecin légiste. Après médecin, donc c'est vrai que c'est loin de ça, hein, ce que j'ai fait au final. Mais j'étais pas du tout baignée dans un contexte où ma mère ou mon père m'avait plongée dans des ordinateurs, dans des Atari, enfin bref.
D'accord.
J'étais loin de la technique au final.
D'accord, donc médecin légiste. Pourtant, est-ce qu'on m'entend bien là? Parce que j'ai l'impression qu'on... Ouais, bon, ok.
On t'entend très bien.
Ok, ouais. D'accord. Non, mais je te précise que les deux personnes qui sont en régie sont en train de jouer avec les boutons. Il y en a une qui est en formation. Donc voilà. On prend des risques pour la dernière émission, mais j'ai toute confiance. Dernière émission de la saison, évidemment. Ceci dit, oui, je disais que tu as tout de même fait un bac scientifique, hein, spécialité maths. Enfin, ouais. Donc qu'est-ce qui t'a amené finalement là-dessus? Est-ce que c'est un hasard ou simplement tu t'es intéressé par les sciences?
Ouais, j'aimais bien ça. Non, mais j'ai toujours aimé les maths, quoi. Ça, c'était un truc que je trouvais assez cool. Mais après, j'étais pas une ado avec une grosse passion pour une discipline, en fait, que t'apprends à l'école. Tu vois la chanson de Diams, là.
Laquelle?
C'est pas l'école qui m'a dicté les codes ou un truc comme ça, là.
D'accord.
La boulette.
La boulette.
C'est ça. Tu vois la...
Oui, tout à fait.
Bon, tu pourras pas la passer parce que je pense pas qu'elle soit en Creative Commons, mais
non.
Tu vois, cette chanson, c'est pas l'école qui m'a dicté les codes, j'étais vraiment là-dedans. En fait, l'école, pour moi, c'était ma bande de potes, aller voir les concerts, je faisais beaucoup de temps, je parle de l'adolescence, tu vois, lycée, quoi. Donc, c'était vraiment, on va dire, le côté social. Le fait que ça t'amène à rencontrer des gens différents. Moi, je vivais dans une working class city, tu vois, Saint-Etienne, voilà, beaucoup de diversité, quartier ultra populaire. Donc, pour moi, c'est ça, mon adolescence, en fait. C'est pas tant ce que j'ai appris à l'école, j'avais pas vraiment de passion pour les études que je faisais. J'étais bonne en maths, donc tant mieux à la rigueur, parce que ça roulait à peu près, quoi, tu vois. Mais c'est plus, quand je pense à mon adolescence, là, on va dire 14, 16, 17 ans, c'est vraiment la découverte du monde culturel, alternatifs politiques, anarchistes, voilà. C'est plus ça que de m'éclater sur un truc d'école, quoi. Même à l'époque, tu vois, je suis pas sûre. Oui, j'avais ce truc de médecin légiste toute petite, hein, parce que tu m'as posé la question, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite, c'était plus médecin légiste, c'était plus sur des âges 8, 10, 12 ans, tu vois. Mais après, rapidement, je pense que je sais même pas si je me voyais bosser, quoi, tu vois.
D'accord.
Honnêtement.
Alors, tu parles de cet aspect-là, justement, social, politique, culturel. Qu'est-ce qui t'a amené, est-ce que c'est cet environnement-là qui t'a amené à faire finalement le choix ensuite, après le bac, de l'informatique? Parce qu'après, t'as fait d'informatique et même à haut niveau.
Ouais, bah, je pense que c'est effectivement lié parce que donc j'ai commencé à organiser des concerts de punk, des concerts de rock, on va dire, avec une asso de la ville où j'habitais, donc Saint-Etienne, cette fameuse Working Class City. Et il y avait une asso qui s'appelait Mats Collectif, qui est devenue Avataria plus tard, et qui organisait des concerts très underground dans des sites industriels. Saint-Etienne, c'est une ville minière, donc voilà, on organisait des concerts dans cette espèce de site, ancien site minier. Côté un peu dark et tout, j'aimais bien ça. Et c'est des gens, en fait, que j'ai rencontrés qui étaient un peu plus âgés que moi, ceux et celles avec qui j'ai monté cette asso, qui organisait des concerts, et c'est des gens qui étaient assez sensibles à l'informatique libre. Donc, parmi elles et eux, il y avait voilà, cette ambition d'être entre une hybridation entre, on va dire, la musique un peu extrême, voilà, et le fait de promouvoir l'informatique libre. Donc, je trouvais l'hybridation assez intéressante, d'ailleurs. Il y avait on faisait aussi quelques conférences, donc des gens de Samizdat qui nous avaient rejoints, rejoints pour des événements qu'on organisait. Samizdat, tu vois ce que c'est? Alors, Frédéric?
Moi, je vois, mais explique ce que c'est Samizdat, ouais. Parce que moi, je vois bien.
Donc,
mais...
Samizdat, ça avait été lancé par un mec qui s'appelait Aris Papadéodorou, si je ne me trompe pas.
Tout à fait. Enfin, ils étaient plusieurs. Il y avait Aris Papadéodorou, Pedro, je ne me souviens plus de son nom de famille. Ils étaient plusieurs, effectivement.
Ouais, voilà. Et on va dire que c'était une association qui essayait d'œuvrer pour... justement, eux, ils étaient entre... ils n'étaient pas anti-tech, mais on va dire qu'ils essayaient de montrer un côté de la tech ou de l'internet qui pouvait faire rêver les anarchistes, on va dire, en gros. Donc, des gens comme nous, quelque part à l'époque. Donc, un environnement où on pensait qu'il y avait des zones libres dans le cyberspace, quoi, qui pouvaient être intéressants à occuper en tant qu'anarchiste. Voilà, je caricature, en tout cas, c'était ma lecture de la chose. Et puis, c'était des gens qui faisaient beaucoup de conférences, organisaient beaucoup d'événements autour de ces thématiques-là, etc. Et on s'est vite rapprochés d'eux, en fait. On bossait pas tout le temps avec eux, mais on s'est vite rapprochés d'eux parce qu'à cette époque-là, fin des années 90, quelque part, on n'était pas très nombreux à faire des choses comme ça, quoi. Et Samizdat a contribué, en fait, à... c'est pas les seuls, mais à essayer d'impulser ce principe de média alternatif aussi. Alors, c'est rigolo parce qu'Aris Papadéodorou, je crois qu'il a fini au Monde.
Faut pas oui, mais de mémoire, il est graphiste.
C'est ça.
Alors, par contre...
Mais moi, c'est un mec pour qui j'avais quand même assez de respect à l'époque. Et du coup, c'est les premiers médias alternatifs avant IndyMedia. IndyMedia, c'est un média alternatif qui est né dans la fin des années 90 à Seattle, suite à des violences policières qui sont assez fortes. Parce que des manifestants, manifestantes sont présentes au sommet de l'OMC à Seattle.
De l'OMC, de l'UFMI, donc Organisation Mondiale du Commerce et Forum Mondial. Qu'est-ce que c'est l'UFMI déjà? Forum Mondial, je ne me souviens plus.
Et du coup, tu avais ces violences policières qui étaient, on va dire, en direction de toutes ces organisations. Enfin, les manifestants étaient présents pour dénoncer ces organisations comme l'OMC, le Front Monétaire International, que c'était pas les organes appropriés pour avoir un monde meilleur, je caricature. Et ces manifestations se font réprimer dans le sang, vraiment. Première grosse violence policière qui sont absolument pas divulguées dans les mass médias. Ou très très peu. Et donc du coup, tu as cette ambition de citoyens qui se disent on va faire quelque chose et on va essayer de monter des médias alternatifs pour essayer de montrer l'autre face, à savoir le fait de communiquer sur le fait qu'il y a eu ces violences policières. Et les réseaux IndyMedia, donc pour moi, Samizdat, ça rentre un peu dans ces choses-là, sur les années 90, dans ces projets-là. Et IndyMedia a résulté dans plein de petites et grosses villes dans le monde entier qui montent ces relais locaux, quoi. Donc ces sites web, principalement basés sur des logiciels libres comme Spip, d'ailleurs, notamment en Europe, et qui contribue à donner la parole à des citoyens, citoyennes, pour essayer de relayer non pas la parole, on va dire, dominante, qui est, elle, relayée par les médias de masse, mais qui essaye de relayer la parole des citoyennes et des citoyens. Donc, moi, je rentre un peu là-dedans, en fait, à travers Stasso, qui organise des concerts, tout ça. Je commence à rencontrer un peu ce monde-là des médias alternatifs, Samizdat, Indie Media. On monte notre réseau alternatif à Saint-Etienne, qui s'appelle les Numéro Zéro, et qui existe toujours, et qui fait partie des réseaux mutus qui sont... qui regroupe tout un tas de réseaux alternatifs encore en France aujourd'hui. Donc, t'as plein de villes aujourd'hui en France qui proposent un site web où d'autres informations sont divulguées, ce que tu vas pas retrouver dans le Progrès ou dans le journal local, quoi. Donc, dans le réseau Mutu aujourd'hui, t'as Angers, Brest, Grenoble, Dijon, Lyon, Paris, Saint-Etienne, enfin bref. T'as plein de villes. Et pour revenir à, justement, il y a 20 ans, quoi, même un peu plus maintenant, eh bien, quelque part, c'est mon entrée dans le monde de la tech, quoi. Donc, je me rends compte que finalement, la tech peut être un outil intéressant pour lutter. Voilà. Et c'est ça qui me donne envie de faire des études. Donc, quelque part, moi, je te dis, j'étais pas une grosse passionnée de physique, de maths. Ça me plaisait, mais on pouvait pas dire que c'était ma passion, hein, au lycée. Mais je me dis, tiens, il y a peut-être un truc à faire dans l'informatique. Ça peut être un truc qui m'éclate bien sûr comme outil politique, en fait. Voilà.
D'accord. Donc, enfin, c'est très intéressant parce que finalement, dès le départ, tu n'es pas venu par la technique, par le goût de la technique, en fait, mais par plutôt les aspects, effectivement, politiques. Alors, on va préciser que tout à l'heure, tu as parlé de SPIP, juste une petite incise. Donc, SPIP, c'est un logiciel libre qui permet de créer des sites web et qui est développé depuis une vingtaine d'années et qui a été créé aussi par des militants et des militantes. Et par exemple, le site de Libre à vous de l'émission est géré sur SPIP. Donc, pour revenir donc à ses débuts, donc finalement t'es arrivé donc par le côté politique, création de site web à travers donc Indie Media, Samizdat, le Numéro Zéro, et ce qui donc t'a poussé finalement à te en fait quelque part tu t'es dit savoir faire des sites web, savoir faire de l'informatique, ça va me permettre finalement de mettre en place des outils à l'usage de mon militantisme et de mes intérêts politiques en fait, et c'est ça.
Bah, disons que la présence sur le web était identifiée à l'époque par mes potes et moi, comme, et puis tous ces réseaux dont que tu viens de citer, comme étant une solution intéressante pour arriver à s'organiser en tant que mouvement d'extrême gauche, etc., de médias alternatifs. Voilà. Donc c'est vraiment ça qui m'a guidée dans ce choix-là, je pense, aujourd'hui, rétrospectivement. C'est toujours compliqué de savoir ce qu'est-ce qui t'a vraiment guidée. Mais il n'y avait pas que ce goût pour la technique. Après, il y a eu ce truc-là, parce que tu vois, on a commencé, là je te parle des sites web, mais on a fait beaucoup aussi de Linux Party. Donc on avait des projets avec Stasso où on prenait des vieilles bornes d'arcade, on les vidait, on mettait un ordi dedans sous Linux, on installait ça dans des bars, dans des lieux, parce qu'à l'époque c'était compliqué d'avoir accès à Internet. Donc du coup on mettait ça sous Linux et on proposait des accès à Internet gratuits dans des lieux culturels, comme des bars, des lieux de sociabilité. Et puis on faisait beaucoup de Linux Party pour inciter les centres sociaux, etc., d'installer Linux dans leur parc informatique. Donc là, j'ai commencé quand même à tremper un peu les doigts dans tout ce qui est tech, un peu plus. Donc là, on parle, je sais pas, je vais avoir 17, 18 ans, un truc comme ça. Et là, je commence à vraiment bien aimer. Mais voilà, c'est pas le premier driver, quoi. Le premier driver, c'est vraiment le côté politique.
D'accord. Alors, je précise aussi qu'on s'est rencontrés à cette époque-là, en fait, dans le cadre notamment de l'association.
Vrai,
oui,
non, mais voilà.
Moi, j'ai. Peut-être que ça nous vieillit un petit peu, mais en fait, on s'est rencontrés effectivement dans ce cadre-là, notamment dans le cadre de l'association.
Oui, je t'avais invité, c'est ça ?
Voilà,
ouais.
Tu m'avais invité, effectivement, et dans le cadre du festival donc de l'association Avataria. Donc, effectivement, c'est moi ce qui m'avait effectivement à l'époque impressionné, c'était ce militantisme et effectivement, c'est toutes les solutions que vous mettiez en œuvre. Donc, ça, c'est l'association. Je précise qu'on mettra tous les liens en ligne sur le site de l'émission parce que voilà, les gens, que ce soit Indie Media, SPIP, Numéro Zéro ou Samizdat, alors je ne sais pas si ce site existe encore, Avataria, dont tu as été la présidente à un moment. Donc il y a cette voilà, on a compris pourquoi tu étais venu finalement à la technique, à l'informatique. Donc tu fais des études. Alors, on va passer rapidement, mais en fait tu finis quand même par un DEA sciences cognitives. T'as un master spécialisé en informatique option génie le logiciel réseau donc à l'École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne donc dans les années 2000. Et donc après tu dois comme beaucoup de gens éventuellement chercher un travail même si c'était pas forcément peut-être voilà mais est-ce que quand tu as cherché ta première activité professionnelle, tu t'es dit je vais je vais chercher n'importe laquelle ou plutôt quelque chose qui va m'intéresser techniquement. Est-ce que tu, dès le départ, tu t'es dit, je voudrais essayer de mixer, en tout cas de mettre en adéquation mon militantisme, mon activité professionnelle? Comment ça s'est passé, tes premiers pas dans le monde professionnel?
Alors déjà, bon, j'ai beaucoup itéré, donc effectivement, tu as dit, j'avais à la fois un DEA puis un diplôme des mines. Donc les DEA, je me suis posé la question, est-ce qu'un PhD, ce serait bien ou pas? Est-ce que ce serait intéressant ou pas de faire une thèse? Et puis, je me voyais pas, en fait. J'avais fait mon mémoire de DEA, donc je travaillais dans l'informatique, plutôt l'IA. Voilà, l'intelligence artificielle, j'étais dans un labo lyonnais. Dans un labo, à côté de nous, il y avait un labo robotique et nous, on était un labo d'IA pur. Et autant le sujet était intéressant, mais le contexte, on va dire, tu vois, encore je reviens au côté sociabilité, comment tu parles à des gens et tout ça, c'était pas l'éclate en fait. Et moi, je pense qu'à cette époque-là, j'étais drivée par ça en fait. Est-ce que c'est fun ou pas? Tu vois, c'est un peu bizarre de dire ça. Mais...
Non.
Enfin, un peu bizarre, c'est pas bizarre, mais tu vois, c'est pas. Il n'y avait rien de très intellectualisé quoi. Donc en gros, je m'éclatais pas, je vais me casser. En gros, voilà, c'était ça. Le DEA, je développais en C. Donc heureusement, j'avais une meuf. D'ailleurs, on reviendra sur cette meuf qui s'appelle Emmanuelle, qui m'avait beaucoup aidée. Elle était en doctorat, elle, et moi, j'étais en DEA. Donc elle me drivait beaucoup, elle m'avait beaucoup inspirée. Tu vois, c'était une bonne codeuse en C. Elle m'avait vraiment appris des trucs que je connaissais pas. Donc ça m'avait montré comment il y avait des meufs dans ce métier-là. Ça, c'était cool. Mais le contexte autour, au-delà de cette meuf, je me suis vraiment pas fait de pote et je trouvais ça un peu austère en fait. Le labo où j'étais, alors peut-être que je suis mal tombée, hein, je dis pas que c'est tout pareil, pas du tout. Mais en tout cas, le mien était pas très drôle. Donc j'ai eu une bourse de thèse, parce que tu sais, à l'époque, en fonction de tes résultats de DEA, de qui t'encadrait dans ton DEA, enfin bref, ça jouait. Et bref, je me retrouvais avec une bourse de thèse et en fait, je l'ai pas voulu. Je l'ai refusé. Je me suis dit, je vais plutôt aller sur un diplôme professionnalisant et je vais aller bosser tout de suite, quoi. Et donc, j'ai eu effectivement ce diplôme de l'école des mines où là, je me dis, après ce diplôme de l'école des mines, je me dis, bon là, vraiment, j'ai fait du réseau et du code pendant longtemps. C'est bon, je suis prête à aller bosser. Mais tu vois, le truc un peu schizophrénique qui m'est arrivé à ce moment-là, c'est que, autant je viens de te décrire voilà, le côté très militant où j'étais, et d'ailleurs je suis toujours assez inscrite dans plein de mouvements différents, le boulot, je me disais, je vais prendre un boulot un peu, tu vois,
qui fait manger,
de
quoi.
9h à 5h, assez classique, où je vais programmer, et puis c'est cool, et puis peu importe le contexte, de toute façon on sait très bien que le boulot c'est de la merde. Je caricature un peu, hein, oui. Mais tu vois, je ne m'attendais pas à pouvoir trouver un boulot qui puisse à la fois correspondre à quelque chose que j'aime au niveau de mes valeurs, quoi, et à un boulot techniquement intéressant. Je pensais vraiment que le boulot, c'était la mort, quoi. Au niveau politique et au niveau environnemental, qui t'entoure, quoi. Donc, j'ai pris un job, un peu le premier que je trouvais, chez un éditeur bancaire. Donc, tu vois, quand même, hein. Et là, je me suis vraiment éclatée techniquement parlant. Mais éditeur bancaire, quoi. Donc, aucun intérêt. Enfin, je veux dire, je codais des algos. Alors, j'ai fait un peu de crypto, ouais, un peu de sécu. Ça, c'était rigolo. Mais je veux dire, voilà, c'est aucun intérêt sur le monde, quoi. T'as un impact négatif, en fait, sur le monde. Et c'était un peu schizophrénique parce que, quelque part, je pense que j'acceptais ça et parce que je voyais pas vraiment d'autre issue, en fait. Dans l'école d'ingé où j'ai fini mes études, on était biberonnés à toute façon, c'est ça qu'il faut. Tu quittes tes études, tu vas prendre un CDI. Quoi. Et c'est ça la vie, quoi, tu vois. Et en fait, je pense que ça m'allait un temps parce que ouais, j'avais mes activités militantes à côté, mais je pense que j'en ai rapidement vu la limite, quoi. Donc j'ai voulu un peu changer d'environnement, mais ça a pris quand même du temps.
Ça a pris combien de temps, en fait?
Après l'éditeur bancaire, je suis rentrée dans une ESN, ce qu'on appelait avant une SS2I. Où là, bon, c'était un peu plus libre, j'avais des domaines métiers différents, j'ai pas que bosser pour des banques, heureusement, mais bon, je me suis tapé des missions de merde, quoi. Et je me souviens avoir démissionné le jour où, à la fin d'une mission chez Total, le jour où ma boîte signait pour Monsanto, enfin bon, bref, là, je dis, ouais, c'est bon, je me casse. Je peux pas, là, même si c'est pas moi qui vends mission pour Monsanto, je m'étais quand même tapé 2 mois de mission chez Total. À faire techniquement des choses super, hein. Enfin, moi, je me suis jamais ennuyée, en fait, dans ce genre de job. Au contraire, je me suis toujours éclatée parce que, voilà, c'est pas parce que tu bosses pour Total que tu fais des trucs inintéressants techniquement. Mais par contre, à 26, 27 ans, j'ai vite vu les limites éthiques où je me sentais quand même le cul entre deux chaises, quoi. Voilà, en gros, je vais méditer le soir et le week-end sur des trucs très extrêmes, très engagés, voilà, sur comment construire un monde meilleur, comment lutter contre le néolibéralisme et tout ça. Et puis la journée, je me retrouve à faire des missions pour Total.
Donc tu as voulu mettre de la cohérence quelque part. Est-ce qu'il y a eu, à part cette réflexion, est-ce qu'il y a eu un événement ou des événements qui t'ont fait basculer pour te dire, bah, je vais essayer de mettre un terme à cette schizophrénie, comme tu as dit ?
Ouais, bah écoute, ouais, avec le copain que j'avais, on s'est dit, bah, on va arrêter de bosser. Donc ça faisait à ce moment-là 8 ans, 9 ans qu'on bossait déjà, tous les deux. Et on s'est dit, bah, on va arrêter. Voilà, on va arrêter de bosser et on va essayer de voyager un peu. Donc pendant un an, on a voyagé pour aller rencontrer des développeuses et des développeurs partout dans le monde, donc pas dans les pays occidentaux si possible. On a fait quelques-uns aussi des pays occidentaux, mais on n'a pas fait que ça. Donc on a fait l'Afrique, on a fait l'Asie, un peu l'Océanie, les États-Unis aussi. On n'était encore pas totalement en rupture avec le rêve de la Silicon Valley. À cette époque-là, ça nous a encore rêvé. On avait un pote qui bossait à Mountain View chez Google. Tu vois, on l'avait visité quand même. Donc, je sais pas. Ça me fait rire aujourd'hui. Je me dis, putain, mais c'est quand même dingue. Mais voilà, on était encore, je pense, pas en rupture totale avec ces modèles-là. Mais par contre, on voulait aller s'inspirer d'autres trucs. Donc, c'est pour ça qu'on a passé du temps en Afrique et en Asie. Et là, je pense qu'on s'est pris une grosse claque. Donc une grosse claque à deux niveaux, donc sur les gens qu'on a rencontrés en Afrique et en Asie. Donc en Afrique, on a rencontré on faisait une mission, en gros on donnait des cours de Java à des gens qui étaient plutôt sysadmin, et on était contre ça, on avait le gîte et le couvert. On a passé du temps avec ces gens-là, c'était vachement intéressant. Et on a rencontré un mec qui lidait un meet-up, quoi. Donc Horatio, qui est aujourd'hui un très bon ami, qui est dans Mixit, on en reparlera plus tard. Mmh. Une association que j'ai cofondée avec des amis, qui est une conférence sur la tech et l'éthique qui se passe à Lyon. Et Horatio, on le rencontre là-bas au Togo, et on voit ce gars-là au taquet, qui organise des meet-up autour de Java principalement. Et on voit cette motivation des gens qu'il arrive à driver. Donc, tu vois, les meet-ups... Il nous avait invité à faire une conf pour un de ces meet-ups, quoi, au Togo, donc à la capitale, Lomé. Et c'était un samedi matin, c'était 10h du mat, c'était à 30 km de Lomé. Et on se retrouvait avec plein de gens, plein de gens à cette conférence. Pas parce qu'on était là, juste parce que ces gens-là avaient l'habitude de se retrouver pour des meet-ups réguliers autour du langage, voilà, autour de la tech, quoi, voilà, les trucs qu'ils éclataient. Mais ce qui nous a fait halluciner, c'est que nous, à l'époque, avec mon copain, on était déjà impliqués dans les meet-up locaux, quoi. On était au Java User Group de Lyon, des choses comme ça. Mais t'aurais mis, alors je parle de Lyon, donc tu prends l'équivalent d'une ville à 30 km de Lyon, disons Givors pour ceux et celles qui connaissent. Donc le truc, vraiment la ville perdue, tu mets un meet-up à 10h du mat à Givors, à côté de Lyon, je te promets, t'as personne, quoi. Y a personne à ton meet-up, t'es quatre, tu vois le café, tu te casses. Et ben, à Lomé, t'avais plein de gens. Donc déjà, on trouve ce truc-là fort, en fait, l'esprit communautaire assez fort, voilà. Et une motivation, on va dire, des gens qu'on rencontre là-bas, assez incroyable, en fait. Donc ça nous inspire beaucoup. Et quelque part, tu vois, c'est là qu'on se rend compte que c'était presque plus inspirant que les tech bros auxquels on était un peu biberonnés.
Explique ce que c'est qu'un tech bro.
Silicon Valley, quoi. Hein,
explique ce que c'est que l'expression tech bro.
La figure classique du hipster qui bosse dans la tech, qui vient de la Silicon Valley, qui dit que la tech c'est cool, elle va sauver le monde. Je veux dire, aujourd'hui, bien sûr que j'étais ce modèle-là, mais je pense que, comme je te l'ai dit à l'époque, j'étais peut-être un peu moins radical peut-être à ce moment-là, et que je pouvais être encore inspirée par des gens comme ça. Pas totalement, mais tu vois, voilà, ça pouvait potentiellement, c'est peut-être des gens encore que je lisais, des choses comme ça. Et je pense que quand je fais ce voyage en Afrique où j'y passe quelques mois, et pareil pour l'Asie, bah là, tu te rends compte qu'en fait, il y a une source d'inspiration à changer. Voilà. C'est des personnes que je te cite là. Elles me donnaient envie de partager du temps avec eux, de partager des discussions, de partager des sources, voilà, ce genre de choses.
C'est la découverte d'une informatique différente, quelque part, en fait.
D'une informatique différente, des gens qui vont pas essayer. Donc, Horatio, là, le pote dont je te parle, il voulait monter sa start-up aussi pour résoudre des soucis propres à son contexte. Donc, il était sur Lomé. Si je me souviens bien, sa start-up, c'était dans le monde de l'éducation. Enfin, bon, bref, des solutions informatiques, on va dire, pour le monde de l'éducation, sans être complètement technosolutionniste, d'ailleurs. Et du coup, je vois une approche de l'informatique différente où là, du coup, on n'est plus dans le truc de la French Tech de merde, là, tu vois, où tu vas pitcher ton idée en disant ouais, tu vas sauver le monde, puis tu te retrouves avec un ticket quand même à 50K qui sert à rien, tu vois, enfin, un ticket à 50K, j'entends par là le fait que souvent, dans cet écosystème un peu pourri de la French Tech, t'as des gens qui vivent, en fait, hein, ça entretient des trucs, où t'as des gens qui vivent de petits tickets comme ça, où tu vas faire un petit soft qui sert à rien et qui sauvera jamais le monde, quoi. Ça, quelque part, donc le milieu entrepreneurial classique français, on va dire, ça, quelque part, tout ce que je viens de te décrire sur Lomé et ces gens qu'on rencontre, c'est à l'antithèse de ça. Donc, c'est des gens qui sont informaticiens, informaticiennes, et qui vont prendre... leur savoir pour résoudre des soucis concrets qu'ils ont chez eux et chez elles, quoi, tu vois. Et ils vont pas essayer d'aller dans l'autre sens, à savoir, bah tiens, on va essayer de trouver un truc qu'on va potentiellement sauver grâce à la tech. C'est pas ça, c'est ils ont des soucis, ils et elles ont des problèmes locaux, on va essayer de les résoudre avec les connaissances qu'on a. Donc quand même un gros changement d'approche. Et la même chose en Asie, on passe quelques temps en Indonésie, à côté de Jakarta d'époque, vraiment le truc qui fait pas rêver, hein, une ville ultra polluée et tout ça. Mais on y passe du temps, pareil, on donne quelques cours. Et là, on rencontre deux meufs, Mila et Nettie, qui ont à l'époque 20-22 ans, qui finissent leurs études, qui montrent des boîtes à côté. Elles sont entrepreneurs toutes les deux. Et le week-end, quand elles ont le temps, elles prennent leur scooter et elles vont faire des cours de coding dans Java, donc Java, l'île de Java. dans la forêt, quoi. Elles prennent leur scooter, elles montent sur les montagnes, elles vont donner des cours de coding aux mômes. Donc pareil, tu vois, en termes de motifs, et elles ont une semaine de vacances par an, quoi, tu vois. Donc, tu rencontres ces meufs-là, qui nous donnent une bonne claque aussi sur le côté motivationnel. Enfin, tu vois, voilà, des gens qui te semblent quand même assez motivés par ce qu'elles font, quoi. Et avec une posture différente vis-à-vis de la tech. Voilà, j'y reviendrai un peu plus tard dans l'interview. Et qui nous inspire beaucoup. Donc, pour revenir aux sources d'inspiration, sur pourquoi c'est bien de défocusser un peu sur le modèle de la Silicon Valley, bah là, on avait deux bonnes raisons. Il y en a eu d'autres, mais deux bonnes sources d'inspiration qui étaient beaucoup plus intéressantes que ce à quoi on avait été exposé. Et on finit le voyage, on finit notre un an de voyage là, par un trip entre Los Angeles et New York. On loue une bagnole entre ces deux villes, donc on traverse les États-Unis et on passe pas mal de temps sur les deux côtes, un peu au milieu aussi. Et là, le rêve, tu vois, ce truc-là de se dire ah, les États-Unis c'est trop bien, machin, est cassé en deux mois, quoi. C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'au milieu des États-Unis, Albuquerque, Texas, tout ça, on rencontre des gens qui vivent dans une pauvreté extrême. Vraiment, quoi, où on se dit, bah, c'est pas possible qu'un pays comme ça puisse accepter qu'il y ait des gens qui vivent dans cet état-là, quoi. Et puis, on découvre l'envers du décor de la Silicon Valley. On rencontre des gens, donc les fameux bus qui sont attaqués là de Google à San Francisco. On n'en voit pas forcément à l'époque, c'était il y a un peu plus longtemps que ça quand on y était, 2010-2011. Mais on rencontre quand même des gens qui sont vénères, quoi. Des gens qui sont vénères parce que t'as ces fameux tech bros dont je parlais, là, tous ces gens, tous ces ingénieurs qui bossent pour des startups de la Silicon Valley. Ou des plus grosses boîtes, bah, ils achètent des apparts à San Francisco pour passer le week-end, et le reste de la semaine, ils ont un autre appart à côté de leur siège, à Mountain View ou à San Diego, enfin bon bref, une autre ville de là où est leur siège de boîte, quoi. Donc ces gens-là, ils participent à la gentrification de San Francisco, ils participent au fait que des gens se cassent de San Francisco parce que ça devient trop cher. Et du coup, on rencontre aussi ces gens-là qui sont vénères de tous ces ingés hipsters qui débarquent et qui en gros contribuent à virer les pauvres, quoi. Et ça a été plutôt plutôt bien pour nous, en fait, de rencontrer ça. Tu vois, ça a cassé ce qui nous restait un peu de de rêve
américain, quoi.
Autour de la Silicon Valley, ouais. Voilà, c'est
d'accord.
Ça.
D'accord. Donc, c'est une pause d'un an avec voyage, vous rentrez. Et donc, ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là, et comment ça se passe, l'alignement quelque part entre tes valeurs et ton métier? Est-ce que tu démissionnes? Enfin, vous aviez déjà démissionné, mais qu'est-ce que tu fais à ce moment-là?
Carrément. Voilà. Du coup, on monte notre boîte, Ninja Squad.
D'accord.
On avait un pote avec qui on faisait le Java User Group, Cédric, et un autre pote, JB, qu'on connaissait bien sûr d'avant le voyage, et puis on leur propose de monter notre boîte. On était tous, plus ou moins, toutes et tous, avant notre voyage, donc oui, ils bossaient encore dans des modèles de SN, dans des modèles où on bossait pour des SS2I, si tu veux.
Des entreprises du numérique,
donc,
on va dire.
Des boîtes de services.
Des boîtes de services du numérique, ouais.
Voilà. Et on s'est dit, pourquoi déjà, en fait, avant de penser à créer un produit incroyable où on avait pas forcément d'idées fabuleuses, hein, on s'est dit, on va juste se vendre nous-mêmes, en fait. On va juste se vendre nous-mêmes, c'est-à-dire que ce que je fais pour ma boîte actuelle, ou ce que je faisais pour ma boîte actuelle avant de partir, de vendre des services, enfin de me vendre en tant que développeuse, ou ce que faisait Cédric en tant que développeur pour bosser pour sa boîte à lui, on pouvait très bien le faire nous-mêmes. Donc on a monté notre boîte qui s'appelle Ninja Squad, et qui est une boîte de développeurs-développeuses. Voilà, il n'y a pas de manager, on n'a pas de local, on bosse tous en remote. On a tous le même salaire, même s'il y a 12 ans d'écart entre le plus jeune et le plus vieux. Donc c'est un principe, on est basé sur des principes à la SCOP, quoi. Voilà. Comme une société coopérative. Mmh. Même si on n'est pas une SCOP, on a une SAS à statut un peu scopien. Parce qu'à l'époque, voilà, je pense qu'on n'avait pas le recul qu'on a peut-être aujourd'hui sur cette structure-là. Enfin bon, bref, on essaie de trouver un truc qui nous correspond et on monte une boîte où les statuts sont le plus horizontaux possible entre nous et où on choisit nos clients et où on bosse un peu comme on a envie, en fait. Et donc, oui, évidemment, moi, j'identifie le voyage, le break d'un an comme étant la raison principale pour laquelle ça m'a poussée à faire ça. Mais je pense que évidemment le voyage joue beaucoup, hein. Tu vois, les gens que tu rencontres, les gens qu'on a rencontrés en Indonésie, tu vois, pour revenir à ces filles dont je te parlais là, qui finissaient leurs études, montaient leur boîte et donnaient des cours le week-end dans la jungle là, des mômes. Ces filles-là, la notion de risque, elles l'expérimentent tout le temps, quoi. Tu vois, nous, le fait de se dire on monte notre boîte, est-ce que c'est vraiment risqué ou pas, bah si tu veux, ça, c'est une question qui fait un peu rire, quoi, quelque part, hein. Genre, monter ta boîte en France quand t'es trois techniciens, techniciennes qui bossent déjà depuis quelques années, le risque il est mineur, quoi. Ça, quand bien même on se plante, on arrête et on va bosser, on va faire de l'alimentaire ailleurs, quoi, tu vois. Donc je pense que ça nous a boosté un peu, en fait, de rencontrer ces gens là et de prendre conscience de notre statut d'hyper privilégié. D'hyper privilégiés, de gens qui bossent dans la tech, qu'on était tous développeurs, développeuses, bah évidemment que c'est facile de trouver du job, quoi. Quand bien même tu ne bosses pas dans des boîtes éthiques, tu vois, quand bien même tu ne focalises pas à trouver des clients éthiques, entre guillemets, c'est facile de trouver des clients et de te vendre toi-même et du coup de choisir ce que tu fais avec ton argent. Donc nous, par exemple, bosser moins, ne plus facturer 5 jours par semaine, voilà, ce genre de choses, quoi.
D'accord. Alors tu viens de parler de boîte éthique. Souvent tu parles de tech éthique, de technologie éthique. Comment tu définirais la technologie éthique ?
Ouais, alors en plus c'est intéressant d'en parler parce que c'est un buzzword depuis quelques temps. Hein. Quelques années, on parle de numérique responsable, de green IT, machin. Bref. Alors la définition que je pourrais en donner, c'est bah déjà c'est le fait de la tech éthique, c'est déjà de se rendre compte des implications de la tech. Voilà. Quand tu es technicien et technicienne, développeur, développeuse, c'est bien de se poser la question des implications de la tech sur la société et d'avoir cette distance en fait par rapport au côté trop enjoué qu'on pourrait avoir en tant que développeur ou développeuse sur ces métiers-là, quoi. Donc avoir un peu de distance, être un peu modeste, humble on va pas sauver le monde, quoi. Voilà, déjà d'avoir un peu ce techno discernement. Je pense que c'est le premier aspect de ce qu'on pourrait appeler une tech éthique. Et évidemment après d'avoir conscience des externalités négatives en fait, hein, de la tech aujourd'hui sur le monde, quoi, et au niveau environnemental et au niveau social et sociétal. Donc moi je bosse chez Fairphone, on en reparlera, mais voilà, on a tous et toutes, en tout cas beaucoup trop de smartphones dans nos poches, et ce smartphone c'est un outil qui bien souvent contribue à mettre des gens à risque loin de chez nous, des gens qui vont bosser à récolter le cobalt dans des mines artisanales, des gens qui assemblent les téléphones en Chine et qui bossent 80 heures par semaine parce qu'ils ou elles sont mal payés. Voilà. Et donc, avoir conscience de ces effets en fait négatifs sur le monde, c'est aussi un autre angle de ce que je peux appeler la tech éthique. Je crois pas beaucoup, enfin, je suis souvent invitée, hein, en tant que Fairphone, évidemment, t'imagines bien qu'on reçoit une invite par semaine d'une table ronde sur Tech for Good et tout ça. Enfin bon, ouais, tu vois ce que je veux dire. Je suis assez vigilante là-dessus. Je choisis un peu où j'interviens. Parfois, je vais intervenir dans des milieux très ennemis où je me dis, bon, ça vaut le coup que je mette un petit coup de pied là-dedans et tout. Mais mais quand j'y vais, en tout cas, dans ces milieux, qui pourraient être accusés de faire un peu de greenwashing, c'est exactement le discours que je tiens, quoi, de pousser les gens à essayer de prendre du recul par rapport à la tech, en fait. Par rapport à ça, là, il y a un an, je crois, il y a l'ex-président de Framasoft, Alexis Kaufmann, qui m'avait invité à faire une conf. Alors là, c'était pas dans un milieu hostile non plus, on était dans l'éducation nationale, mais face à des gens qui bossent, alors, je sais pas comment t'appelles ça, mais aux responsables du numérique, on va dire, l'éducation nationale, tu vois.
Sans doute à la direction nationale de l'éducation numérique.
Ou un truc comme ça. Et puis, tu avais plein de gens qui bossaient dans le numérique localement, tu vois. Donc là, ils se retrouvent tous à Lyon. On fait une conf devant tous ces gens-là qui font des choses autour du numérique au niveau de l'éducation nationale. Je la fais courte, mais c'est comme ça. Et Alexis, super, merci pour l'invite. Ça a bien servi parce que je me retrouve avec ma pote. J'ai une pote avec qui je fais quelques confs sur les low-tech, tout ça. Et en fait, on fait cette conf. Et dans la conf, on dit, bon, bah... Ouais, peut-être qu'en fait, c'est cool, ça serait intéressant que dans vos positions, vous posiez la question de l'intérêt réel du numérique dans les écoles, d'avoir des tablettes par milliers qui s'entassent dans des classes où les gens ne sont pas formés, les profs, j'entends. Et du coup, bah, les tablettes, elles servent pas à grand-chose. On se retrouve avec des profs qui sont toujours sous-payés, pas assez nombreux et nombreuses, et avec des établissements qui sont pas chauffés. Enfin bon, bref. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de mettre le chauffage dans les écoles, de payer mieux les profs et qu'il y en ait plus, quoi? Tu vois? Enfin. Et là, je ne sais pas si on a beaucoup d'applaudissements quand on a dit ça, mais le nombre de gens qui sont venus me voir après la conf en disant « Ah ouais, mais c'est… » Voilà. On sent qu'il y a quand même des gens, même dans des positions clés, qui se posent la question de leur propre impact, en fait, sur le monde. Et c'est ça, en fait, que je veux trigger… Enfin, que j'aimerais…
Mettre en avant.
Voilà, mettre en avant. Puis j'aimerais enclencher ça, en fait, chez les gens, quand je leur parle et que j'interviens dans des tables rondes et que je fais des talks, machin. J'en fais pas tant que ça non plus, hein. Mais quand je fais ça, je veux vraiment trigger… Enfin, que les gens se posent cette question-là.
La question, c'est en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de la tech tout le temps pour résoudre les problèmes?
Est-ce qu'on a besoin de la tech?
Et de laquelle tech?
En tout cas, qu'on soit bien toutes conscientes et tous conscients de l'impact qu'on a, en fait. D'une,
d'accord.
Et une fois qu'on a conscience de ça, est-ce que ça serait pas intéressant de se prendre un peu de recul, quoi? De prendre un peu de recul. Ce techno-discernement dont je parlais tout à l'heure, qui était mon premier angle, quand tu m'as demandé de définir ce que t'es la tech éthique. Voilà, donc c'est comme ça que je te la définirais. Après, évidemment, on peut aller plus loin, hein. Une tech éthique, pour moi, c'est une tech plus inclusive. Les tech bros, bah, faut qu'ils se cassent un peu aussi. Tu vois, faut qu'on arrive à intégrer.
En l'occurrence, là, on parle du traditionnel, on va dire, homme blanc.
Ouais, cis.
Cis, enfin, cisgenre, voilà.
Ouais.
Entre 30 et 60 ans.
Il y a des gens comme ça, tu vois, alors
oui.
Que. Il y a 10 ans. Enfin, il y a longtemps, du coup, il y a peut-être pas 10 ans, mais des années, il y a un podcast de codeurs, principalement autour de Java, qui s'appelle Les Casse Codeurs. Il y a un mec que j'aime beaucoup, qui l'anime, qui s'appelle Emmanuel Bernard, et qui m'invite sur un podcast autour de la diversité chez les codeurs et les codeuses, machin. Et j'interviens avec un mec qui est gay, moi je suis une femme, voilà, je caricature un peu. Et lui comme moi, on disait, bah ouais, en fait, moi j'ai jamais bossé quasi jamais avec des meufs, lui jamais avec des gays. J'ai bossé avec un Salim dans toute ma carrière, alors que j'ai grandi à l'école avec la moitié de gens qui sont d'origine du Maghreb. La France a un problème là-dessus. Enfin, en tout cas, on peut même élargir aux Western countries en général, quoi, tu vois, aux pays occidentaux. On a un problème de diversité dans la tech. On a vraiment ce problème-là. En Afrique et en Asie, justement, l'autre claque que j'ai prise aussi, c'est qu'en Asie, j'avais 60% de filles dans mes cours, quoi. Donc, l'Indonésie, c'est le premier pays musulman du monde. Les meufs, elles sont présentes dans le milieu de la tech, quoi. Alors qu'on pourrait avoir avec nos putains de stéréotypes à la con, là, genre, les pays musulmans, les femmes sont voilées, elles sont sous domination masculine. Tu parles? Pas du tout. Enfin, pas du tout. Genre, ben, je veux dire, sur ce point-là, sur ce point de vue-là, elles sont beaucoup plus nombreuses que nous dans nos pays occidentaux, quoi. Donc, pour revenir, là, je finis un peu, c'est un peu long, hein, mais ma définition de la tech éthique, c'est aussi une tech plus inclusive et qu'on essaye d'étendre ce milieu-là à des gens qui vont nous faire du bien, quoi, des gens qui ressemblent pas aux 95% qui l'occupent aujourd'hui, quoi.
Alors, le temps passe très vite, mais
ouais, désolé,
ah,
ouais,
non, mais il y a pas de souci, c'est ton émission, en fait. Mais avant de parler de Fairphone et aussi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de Duchesse et de Mixit. J'ai quand même une question par rapport à ce que tu viens de parler. Est-ce que toi, en tant que femme dans la tech, est-ce que tu as eu des soucis, que ce soit des soucis de sexisme, des soucis professionnels ou autre? Est-ce que tu as un vécu par rapport à ça? Je pense que oui, mais
ouais,
lequel?
Ouais. Bah écoute, alors. C'est toujours problématique. Je pense pas que j'ai eu des soucis qui m'ont bien traumatisée, mais je vais en citer quelques-uns. Mais par contre, je veux vraiment pas dire que ça arrive pas parce que j'ai tellement lu de gamines chez 42 qui se font emmerder par des gars. Voilà. Donc moi, l'expérience que j'ai eu peut-être beaucoup de chance, mais je sais qu'il y a plein de soucis qui arrivent aux quelques meufs qui sont dans la tech, en tout cas en France. Moi, il m'est arrivé des trucs. on va dire, des blagues qui m'ont jamais fait rire. J'ai mon premier PDG de la fameuse boîte, là, tu sais, la boîte où... éditeur bancaire. Là.
Bancaire, ouais.
Ouais, le mec qui me recrute, donc à un moment donné, il y a le PDG, quoi, voilà. Et il m'avait fait une blague, donc je faisais du Java à l'époque. Il m'appelait la femme objet. Donc Java, c'est un programme.
Ouais, c'est une blague de la forme. Ouais, ok.
Ouais. Voilà, belle blague. Et lui, ouais. Il était même pas informaticien, donc il était bien inspiré par les tech bros, je pense. Donc des blagues comme ça, donc il l'a fait une fois, il l'a fait deux fois, voilà. Après, j'ai eu un autre gars qui était mon chef quand je bossais dans une DSI. J'avais bossé quelques années dans une DSI.
Direction informatique.
Ouais, voilà, direction informatique, donc un service informatique, donc pas pour forcément une ESN. Ouais, un mec ultra sexiste, tu vois, ultra sexiste, en train de faire tout le temps des blagues. Et vu qu'il y avait que des gars dans mon équipe, alors tous ne réagissaient pas, ça c'est sûr, mais quelques-uns réagissaient, et du coup ça crée une ambiance un peu délétère, où genre, bah ouais, ça, c'est naze, quoi. Enfin, tu vois, quand tu fais des blagues sexistes tout le temps à une réunion sur deux, bah... l'ambiance, elle est pas géniale.
Elle est pourrie, ouais.
Parce que c'est aussi dérangeant pour des gars bien, quoi, tu vois. Des ambiances comme ça. Donc, j'ai connu ça. Ça n'a pas été la majorité de ma carrière, parce que tu vois, par exemple, quand je te parle de Ninja Squad, bah, évidemment que là, c'est trop bien. Chez Fairfun, c'est incroyable. Enfin, voilà, aujourd'hui, je suis dans des environnements. Là, par exemple, typiquement Fairfun. Là, juste avant de faire le podcast, j'ai passé une heure et demie avec le headhunter, donc le recruteur qui va recruter notre prochain ou prochaine CEO, parce que notre CEO vient d'apprendre.
Le responsable technique.
D'annoncer qu'elle se casse.
La responsable présidente.
Voilà, CEO, c'est PDG.
PDG, ouais.
Et du coup, elle se casse, en fait. Elle s'appelle Eva, l'actuelle PDG de Fairphone part. D'ailleurs, en étant très inspirante, parce qu'elle part en disant, bah, moi, j'ai besoin de temps pour moi, donc je pars. Je trouve ça super, tu vois, en termes d'honnêteté. Et donc, j'étais il y a une heure avec le recruteur, et qui me dit, ouais, c'est quoi tes critères, quoi ? C'est quoi tes critères pour la nouvelle personne qui va remplacer ça, bah, tu vois, je lui dis, bah, moi, un non-male, donc quelqu'un qui n'est pas un mâle cis, ça serait quand même bien. Bah, le mec, il note, et, tu vois, il dit, ouais, là, c'est vrai que t'as raison. Mon collègue qui était à côté de moi, il dit, bah, bien sûr, évidemment. En fait, tu vois, c'est presque plus un sujet, en fait. À l'époque où j'avais ce gars-là sexiste, là, ce chef technique, ça aurait été un sujet. Ça aurait été un sujet où le mec, il n'aurait jamais compris pourquoi c'était intéressant, comme CEO, d'avoir quelqu'un qui ne soit pas un mâle blanc cis-hétéro. Bah, l'environnement de travail dans lequel je suis aujourd'hui, je mentionne le critère, et ben, c'est pas un sujet de discussion où la personne ne comprend pas, quoi. Il y a de la discrimination positive. Ça aussi, on peut en parler, hein. Il y a des organisations techniques, des boîtes qui sont contre la discrimination positive. Pour moi, je pense que ça peut aider à un moment donné. C'est pas la solution ultime, mais si ça peut aider à un moment donné une organisation à attirer plus de personnes différentes dans cette boîte, ça peut être intéressant, quoi.
Oui, tout à fait. Ça, c'est clair.
Et une boîte tech comme Fairphone, je trouve ça vachement intéressant de mettre une personne qui n'est pas un mâle blanc hétéro cis.
Là, on vient parler un petit peu de diversité. Il y a un point aussi que tu voulais absolument aborder, et je tiens à ce qu'on l'aborde, parce que le temps quand même file. Et tu as plusieurs fois parlé de Fairphone. Donc déjà, expliquer ce que tu fais à Fairphone, ce qu'est Fairphone. Et surtout, la partie, tu me disais, quand on a échangé, la tech, elle est néocoloniale. Mmh. Alors, est-ce que tu veux expliquer en quoi elle est néocoloniale et en quoi Fairphone essaye de traiter ce problème ?
Ouais. Alors, pourquoi la tech est néocoloniale ? Tout à l'heure, je te parlais du cobalt, hein, des gens qui minent le cobalt dans des conditions pas satisfaisantes au Congo, etc. Alors là, je te renverrai, je te donnerai pour ton lien sur la description du podcast. On a fait intervenir chez Mixit, donc la conférence dont je m'occupe, quelqu'un qui a très très bien parlé de ça. Donc je te renverrai à sa conférence. Il a fait une keynote, cette personne-là, qui explique un peu ce pourquoi. Donc il s'appelle David Maenda Kitoko. Et il a fait sa keynote, le titre de la keynote, c'est « Pour une écologie décoloniale du numérique ». Et en fait, son propos, je le reprends, hein, je le cite parce qu'il parle mieux que moi de ce sujet-là. Son propos, c'est le fait de dire que, au final, on est toutes et tous avec ce que je te disais tout à l'heure, avec les téléphones dans les poches. Et on se pose rarement les questions de d'où vient ce téléphone et de l'effet que ça a sur le monde entier, sur ces gens-là qui minent le cobalt au Congo. Et quand on se pose la question, si jamais on fait l'effort de se poser cette question-là, on se rend compte qu'en fait, qu'il y a des relations qui ressemblent fortement entre les pays occidentaux et les pays, ces pays-là d'Afrique que j'ai cités, comme le Congo, comme l'Angola, etc., où on est dans une relation assez similaire de ce qu'on a pu entretenir, nous, la France, quand on était un pays colonial. Donc c'est pour ça qu'on parle de néocolonialisme, de liens qui ressemblent fortement à l'époque où officiellement la France avait des colonies. Et pour moi, le numérique aujourd'hui, enfin pour moi et pour lui du coup, le numérique aujourd'hui est la cause de plein de problématiques qui se passent très loin de chez nous, comme au Ghana, en Angola ou au Congo, et qui sont mises en place par un néocolonialisme notoire, quoi. Ce gars-là, David Maenda Kitoko, donc qui est originaire de RDC, République démocratique du Congo, lui, il est réfugié politique en France, et il raconte dans sa keynote toute son histoire, ses combats pour justement la prise de conscience entre le numérique, le colonialisme, les minerais de sang, les conflits dans son pays, à travers son association qui s'appelle Génération Lumière, et il explique, on va dire, que la première étape, c'est la prise de conscience, que déjà, on prenne toutes et tous conscience de ça pour éventuellement agir de manière différente. Et ce que fait Fairphone, bah, c'est de mettre la lumière sur ça, déjà. Donc de mettre la lumière sur bah, d'où viennent ces minerais-là et d'essayer de sourcer ces minerais de manière différente, quoi. Donc sur un téléphone, t'as à peu près, dans un téléphone, t'as à peu près 50 minerais. Nous, on travaille aujourd'hui que sur 14. Donc c'est pas encore 100% des minerais, ça c'est sûr, parce que c'est très très long de cliner une filière, quoi. Et le premier truc qu'on a fait sur le Fairphone 1 en 2013, c'était d'incorporer du tungstène et de l'étain conflict-free, donc qui ne génère pas des conflits armés dans les pays que je viens de citer. Et après, on a fait d'autres choses. Je pourrais t'en parler plus longuement, mais je pense que là, j'aurai pas le temps. Mais l'objectif, c'est d'insuffler cette théorie du changement, donc prise de conscience, montrer que c'est possible de faire différemment et pousser l'industrie à agir de manière plus responsable. Quand je dis l'industrie, c'est des gens qui font aussi des produits électroniques, quoi. Donc Fairphone, c'est ça.
Alors je renvoie aussi les personnes qui nous écoutent à l'émission 118, hein, libreavoue.org/118, dans laquelle tu étais intervenu donc avec Gaël Duval pour parler de Fairphone et de Murena, donc deux projets différents. Donc là, les gens qui voudront en savoir plus sur Fairphone pourront t'écouter donc dans l'émission 118 sur libreavoue.org. Il nous reste 5-6 minutes à peu près. On va pas faire de pause musicale, je préviens les gens en régie. Je voulais quand même que tu, avant les questions finales, je voulais quand même que tu parles un petit peu de tes... Alors t'en as parlé rapidement, mais tes engagements, et notamment expliquer un petit peu ce que fait Duchesse France et puis aussi cette fameuse conférence à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister pour la première fois cette année, Mixit.
Ouais. Alors, bah, Duchesse France, c'est une association qui travaille pour la visibilité des femmes tech. Et Mixit fait ça, enfin, on œuvre depuis une dizaine d'années aussi là-dessus pour qu'il y ait plus de diversité dans la tech. Mais Duchesse France a un travail plus de fond toute l'année. Là-dessus, quoi. Donc, à travers l'organisation d'événements, du marrainage, des choses comme ça. Donc, le marrainage étant le fait que des personnes qui rejoignent le milieu de la tech bah, puissent avoir des personnes, des marraines, qui les aident un peu à répondre aux questions qu'elles puissent avoir. Si jamais elles ont envie de faire des talks à des conférences, bah, elles soient coachées par des marraines et tout ça. Donc, ça, c'est Duchesse France. Et Mixit, on travaille à la fois sur la diversité dans la tech, mais aussi sur plus d'éthique dans la tech, quoi. Donc, tous les thématiques. Avec David, le mec dont je te parlais tout à l'heure de Génération Lumière, qui vient de RDC, bah, typiquement, il avait une keynote cette année à Mixit, quoi. Donc, depuis le début, Mixit a toujours essayé d'œuvrer pour essayer de mettre en avant les impacts négatifs du numérique, en tout cas de se poser ces questions-là sur. Notre rôle, on va dire, sur le monde et les externalités négatives du numérique, surtout à des gens qui sont vraiment dans ces métiers-là, quoi. Donc, on va dire que la plupart des gens qui viennent à Mixit, c'est quand même des développeuses, développeurs, des business analysts, voilà. Des gens qui ont ce profil-là. Donc, ça, c'est pour te décrire rapidement ce qu'est Mixit et Duchesse France.
Alors, je vais préciser, effectivement, ce que moi j'ai adoré à Mixit, outre l'organisation parfaite, c'est effectivement ce mélange à la fois de présentation technique, on peut dire, assez classique. Et puis ce que vous appelez les aliens, c'est-à-dire des présentations qui nous ouvrent un peu le cœur et les yeux. Donc par exemple, une présentation sur comment travailler avec une personne autiste dans une entreprise. Il y a effectivement la keynote dont tu viens de parler. On a eu quelqu'un qui a fait de la magie aussi en keynote de finale. Et donc c'est ce mélange-là qui est vraiment très intéressant et que moi j'ai beaucoup apprécié. C'est pas qu'une conférence technique, c'est une conférence technique et sociétale en fait.
Il y avait la fresque du numérique, la fresque du féminisme.
Il y avait plein de choses, oui.
Il tu pouvais ne pas faire de tech à Mixit.
Exactement, ouais. Alors, on approche bientôt de la fin de l'interview, parce que juste après, on a un sujet court qui est déjà enregistré, donc je connais la durée.
Ouais, y a pas de souci.
Donc, on va finir par les deux dernières questions. Alors, l'avant-dernière question est un peu traditionnelle, même si peut-être un peu compliquée. C'est est-ce qu'en moins de 2 minutes, tu peux résumer les principaux messages que tu voulais faire passer?
Ouais. Et je vais en profiter aussi pour énoncer exactement ce que je fais chez Fairphone, parce qu'effectivement, j'ai oublié, je viens de me rendre compte que je t'ai pas bien répondu, mais ça va être dans la réponse que je vais te faire maintenant. Donc, tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu m'as demandé de définir ce qu'était pour moi la tech éthique, donc ça passe par le techno-discernement. Donc, c'est une des idées principales que j'aimerais faire passer, que les personnes qui écoutent aujourd'hui, si elles ou ils sont dans une position où elles œuvrent, dans la tech, bah, qu'on ait cette distance-là par rapport à la tech. Et puis l'autre idée, c'est d'arriver à insuffler une tech qui peut être différente, donc par exemple plus durable. Ça peut être vachement intéressant qu'il y ait des gens aujourd'hui qui se disent que ça peut être chouette de faire de la maintenance de produits logiciels. Moi, c'est ce que je fais chez Fairphone, du coup. Je travaille sur les produits logiciels long terme qui tournent sur les téléphones, donc Android, quoi. Nous, on fait de l'Android principalement. On essaie de pousser aussi des solutions, des OS open source sur les Fairphone qu'on fait, parce qu'on pense que l'open source est un levier ultra intéressant pour la longévité des produits. Et donc tout ça, ça demande de la recherche, ça demande des expertises, etc. Et donc s'il y a des gens qui pensent avoir des compétences là-dedans, bah, y a un boulevard, quoi. Il y a un boulevard pour créer des produits qui durent, quoi. Moi, quand j'étais dans ces fameuses ESN, ce qui éclatait tout le temps les gens, c'est de travailler sur des technos nouvelles, de travailler sur de l'innovation, etc. Bah, pourquoi ça éclaterait pas de bosser sur de la maintenance de produits, quoi? Faut qu'on rentre dans l'ère de la maintenance. Moi, j'y crois quand même fortement. Donc ça, c'est vraiment l'idée que j'aimerais faire passer aujourd'hui.
D'accord. Et dernière question, alors qu'on pose rarement, mais qui me paraît là intéressant vu la conversation, quelle lecture, série, podcast ou autre aimerais-tu conseiller aux personnes qui nous écoutent, pas forcément en lien avec tes activités, hein, ton ou tes coups de cœur actuels en gros?
Ouais, et eh ben écoute, plein. Hein. moi, j'aime bien les bouquins de Philippe Biwix, qui a écrit il y a une dizaine d'années, L'âge des low-tech. Un bouquin moins connu, La machine est ton seigneur et ton maître, de Jenny Chan et Xu Lujian. Tout ça, je te donnerai les liens.
Oui, je veux bien, oui.
C'est sur les conditions de travail chez Foxconn. Donc là, ça revient justement aux impacts négatifs.
C'est en Chine, les chinois.
Techno-féodalisme de Cédric Durand, donc il y a un livre qui explique très bien justement comment la tech est un nouveau mode de féodalisme. Écologie du smartphone, qui est un bouquin qui a été écrit collectivement et sous la direction de Laurent Salard, Alexandre Monin, Nicolas Nova. Donc pareil, plein d'angles différents sur les impacts du smartphone. Technologie partout, démocratie nulle part, ça c'est aussi un bouquin que j'aime bien, qui est écrit par des gens qui sont plus ou moins derrière les boutons numériques, donc un petit peu technocritique, qui va écrire un plaidoyer pour que les choix technologiques deviennent l'affaire de tous. Et dans les podcasts, il y en a deux que j'aime bien, Techologie et Tech Won't Save Us. Donc Technologie, c'est français, et c'est un podcast qui parle de la part du numérique dans le désordre climatique, qui parle aussi des impacts négatifs sociaux du numérique. Donc ça, j'aime bien ce podcast, très généraliste, mais bien. Et Tech Won't Save Us, c'est pas un podcast en français, mais pour celles et ceux qui... Ça fait pas trop chier d'écouter des trucs en anglais. Bah, c'est un podcast assez technocritique sur et notamment sur les big tech. Paris Max qui fait ça, que j'aime beaucoup aussi. Voilà ce que je te citerai.
Bah écoute, merci Agnès, nous enverrai les références qu'on rajoutera sur le site libravou.org.
Pas de soucis.
Bah écoute, c'était un grand plaisir. Agnès, qui était notre troisième invitée, donc Parcours Libris. Hein, donc, je rappelle qu'Agnès est responsable de l'équipe informatique et de la longévité logicielle de Fairphone, cofondatrice de Ninja Squad, de la conférence Mixit et membre de l'équipe de Duchesse France. Bah, Agnès, je te souhaite une belle fin de journée et un bel été. Et à bientôt.
Super, merci Frédéric de l'invitation.
Avec plaisir, à bientôt. On va passer directement au sujet suivant. Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs pour son propre bien-être en particulier et celui de la société en général, C'est la chronique « À cœur vaillant, la voix est libre » de Laurent Costi, administrateur de l'April et de sa fille Laurette. Le titre de la chronique du jour, « Sésame, ouvre-toi et prends-en de la graine ».
Hello Papalindrome, des nouvelles de Sweden Scrummeldish et de la plante qu'il a baptisée Fofone ? Il faut pas chercher de palindrome dans la partie précédente de la phrase, mais je sais que tu es élu par cette crapule de Sweden, membre honoraire des promoteurs d'un numérique éthique et émancipateur.
Ayant la main verte de Hulk, mais son indélicatesse, il a préféré confier Fofone à son collègue Romain, qui lui parle aux plantes comme Robert murmurait à l'oreille des chevaux. C'est franchement pas coton. Mais est-ce seulement pour prendre des nouvelles de la plante que tu m'appelles ou est-ce moins chlorophyllien comme prétexte ?
Alors effectivement, c'est une raison artistico-sécuritaire. Je dois trouver un nouveau mot de passe sérieux et je manque d'inspiration pour un compte. Franchement, 1, 2, 3, 4, 5, 6 m'ennuie profondément et par ailleurs, sa renommée dans le dictionnaire des mots de passe les plus utilisés n'augure rien de bon s'il devait résister et ne pas craquer.
Ah, c'est sage que de ne pas céder à la facilité, surtout quand il s'agit de sécurité informatique. Je vais tenter de te prodiguer quelques conseils qui sont ceux d'une personne pour laquelle le niveau de menace n'est pas élevé. Je ne suis ni journaliste sur un terrain de guerre, ni militant écologiste courageux.
Bon, venons-en au fait, engage le jeu, que je le gagne.
Décidément, c'est ta période palindromatique. C'est l'été qui veut ça ? Eh, tu as noté ? Été, c'est un palindrome. Je l'ai trouvé tout seul. En plus, ça va avec la contrepétrie de dernière année de maternelle. L'été est beau et chaud.
C'est super, papa. Bon, c'est bon, on a passé la barre des 250 mots obligatoires pour l'introduction. On peut peut-être attaquer le sujet, non ? Puis, pour celles et ceux qui auraient envie de trouver les deux palindromes de l'introduction, les transcriptions vont être précieuses. Merci, le groupe Transcription de l'April. Des gros bisous.
Et il n'y a pas que les émissions Libre à vous qui sont retranscrites. Il y a plein d'autres sujets très intéressants sur librealire.org.
J'ai donc vérifié. 1, 2, 3, 4, 5, 6 est le mot de passe qui arrive toujours en tête des concours Eurovision de mots de passe. Tiens, d'ailleurs, ça pourrait être une bonne idée si la France était représentée par un ou une artiste qui s'appellerait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On aurait peut-être une chance.
De devoir investir 15 à 30 millions d'euros pour accueillir l'édition suivante. Mais tu t'égares, Agar, du Nord. Posons-nous plutôt la question, qu'est-ce qu'un bon mot de passe ?
Y a le bon mot de passe et puis il y a le mauvais mot de passe. Bon, le bon mot de passe, il résiste, il persiste. Bon, le mauvais mot de passe, juste il existe. Si je teste, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans l'outil de vérification de robustesse sur le site nothingtohide.org, il me dit qu'il faut moins d'une seconde, à raison de 10 essais par seconde, pour craquer ce mot de passe.
Et on en revient à l'émission 112 de Libre à vous, que l'on vous invite, comme toutes les autres, à réécouter pendant l'été. En une seconde, Xor a déjà eu le temps d'enfiler 200 fois son scaphandre de combat. Bah oui, c'était 20 fois pour 100 millisecondes dans la chronique 4. J'ai donc demandé à 10 facteurs qui passaient par là. Pour un mot de passe, résister une seconde, c'est vraiment trop léger. Et en l'occurrence, un mot de passe long vaut mieux qu'un mot de passe avec des caractères tarabiscotés. N'hésite pas à faire des essais.
Mais c'est mieux que pas de mot de passe du tout, non ? Genre, entre deux vélos identiques garés côte à côte et dont l'un seulement est attaché avec un antivol de basse qualité, une personne va naturellement aller au plus vite et enfourcher le vélo sans antivol, non ?
Oui, je comprends que tu puisses raisonner de cette manière. Et on en revient à la question des niveaux de menace et de l'équilibre confort-sécurité que l'on est prêt à concéder. D'autant que focaliser uniquement sur la question des mots de passe en informatique, ce serait comme ne s'inquiéter que des trous dans la coque d'un bateau, sans penser qu'un incendie peut aussi se produire et amener une catastrophe. La sauvegarde ou le chiffrement, par exemple, sont autant de questions qu'il faut interroger quand on souhaite préserver ces données.
Et puis, malgré les mots de passe, nos pratiques peuvent les rendre inutiles. J'en connais des qui laissent la session de leur système d'exploitation ouverte, j'en connais d'autres qui, parce que leur mot de passe est justement trop compliqué, l'écrivent sur un papier qui, telle une feuille morte, gît à proximité de l'appareil alors fragilisé.
Ah, le contexte dans lequel tu évolues et l'appareil que tu utilises pourraient potentiellement justifier des règles plus ou moins strictes. Mais il est sans doute plus facile de prendre des automatismes et de t'instaurer une discipline plutôt que d'avoir à réfléchir à chaque fois à ce qui semble adapté au contexte.
C'est vrai que c'est pénible de devoir redonner son mot de passe de session après s'être éloigné quelques minutes de son clavier, surtout quand je suis à la maison. Enfin, la probabilité que ton fils et mon frère viennent subrepticement s'approprier mes NFT de petits poneys en tenue de camouflage est quand même très faible. D'autant que je n'ai jamais acquis de tels gadgets inutilement énergivores et définitivement spéculatifs et particulièrement laids.
Effectivement. En plus, je sais que ton frère déteste les poneys et le kaki. Mais transpose ce contexte dans un lieu public avec beaucoup de gens autour. Bien sûr, tu vas surveiller ton appareil, mais un verrouillage automatique ajoute une sécurité. Un ordinateur fixe à la maison ou un ordinateur portable pourrait ne pas justifier les mêmes règles, mais ça va soulager ton cerveau que de les appliquer.
Et dans cette logique, tu vas être fier de moi. J'ai mis un mot de passe général sur mon navigateur Mozilla Firefox. Outre la nécessité de le renseigner la première fois qu'on ouvre le navigateur, ça oblige aussi à le renseigner quand on souhaite afficher un mot de passe enregistré.
Certaines personnes préfèrent utiliser leur navigateur en effaçant toutes les traces après fermeture. C'est une pratique qui peut se défendre. Mais si on choisit de conserver des identifiants et des mots de passe dans Firefox, pour des sites sur lesquels on va souvent, ça peut nous simplifier la vie. Et le minimum est effectivement de sécuriser par un mot de passe maître. Surtout si la session n'a pas de mot de passe. Je te félicite. Tiens, tu vas faire un test pour moi. Voici le protocole. Je te laisse le suivre à la lettre. Je lance le chronomètre.
J'ouvre Firefox sans mot de passe maître sur une session ouverte sur l'ordinateur qui traînait sur la table, Roger. Je vais dans le menu hamburger, autrement dit les trois traits, deux tranches de pain avec au milieu un steak de soja, et je choisis le menu salade tomate oignon, mais surtout mot de passe, Roger.
Tu dois te dépêcher, car ta copine va vite s'apercevoir que le rap de frites annoncé dans les haut-parleurs de la bibliothèque universitaire n'était qu'un subtil subterfuge étudiantofuge pour l'éloigner de son appareil.
Je clique sur les trois petits points en haut à droite, puis sur exporter les identifiants, Roger. J'enregistre, Roger. J'ouvre la boîte mail, Roger. Je m'adresse un mail avec, en pièce jointe, le fichier précédemment généré et j'envoie, Roger. Je supprime le mail envoyé de la boîte d'envoi pour ne pas laisser de traces, Roger. Et finalement, je vide la corbeille contenant les mails supprimés, Roger.
Eh bien me voilà, qu'est-ce que je vous sers ?
Oh non, Roger le tavernier. Bah, c'est sûr qu'à force de dire Roger, même sans anneau d'invocation et malgré l'accent, ça devait être difficile pour lui de résister à l'appel, oui.
On va éviter de dire Tulu alors. Merci Roger, à bientôt, tu feras des bisous à Moumoun. Et toi Laurette, tu as mis un peu plus d'une minute pour récupérer tous les identifiants et les mots de passe de ta copine. En ouvrant le fichier CSV, tu as tous les éléments pour accéder au site auquel elle s'est connectée et qu'elle a enregistré.
Oh la coquine de Camille! Elle est abonnée à un site qui diffuse des images de gros lapins tout doux. C'est pas commun, d'habitude c'est plutôt des chatons. C'est presque dégoûtant. Je ne connaissais pas le côté si sombre de sa personnalité. Je vais la regarder autrement maintenant.
Ah, c'est aussi pour ça que c'est important de préserver sa vie privée. Bon, les lapins, ce n'est pas encore une perversion trop grave, mais on imagine bien que d'autres sujets pourraient bien abîmer des personnes.
Bref, protéger ses pots de masse, et bim, une contrepétrie pour moi en plus, let's go, est important. Je sais aussi qu'il ne faut jamais mettre le même mot de passe partout. C'est une mauvaise pratique. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut que ce soit long et enfin, il faut le changer régulièrement. Car on constate souvent que des fuites de données ont lieu et que les mots de passe peuvent être compromis.
Il y a des sites qui indiquent si des fuites ont eu lieu, comme Have I Been Pwned. Le gestionnaire de mots de passe de Firefox donne aussi des indications.
Mais comment je fais alors pour retenir des mots de passe de 14 caractères sur plusieurs dizaines de sites? Même si je suis terriblement intelligente, ce n'est pas si simple.
Plein de petits trucs. À toi de choisir ce qui te convient le mieux. D'abord, sur les choix des mots de passe eux-mêmes. Tu peux prendre une racine commune et la décliner en fonction des sites. Une longue phrase d'un poème sera toujours plus efficace qu'un tout petit mot de passe de 6 caractères tarabiscoté, comme je le disais tout à l'heure. Je te renvoie à la page dédiée de la CNIL pour plus de conseils.
Et pour le stockage? Un carnet est une solution si on a peur de voir circuler les identifiants et les mots de passe numériquement, mais la copie n'est pas simple. Et il faut aussi toujours l'avoir sur soi. Un tableur LibreOffice Calc enregistré avec mot de passe pourrait convenir, non?
Ah, c'est un minimum, effectivement. La voie recommandée est l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe comme KeepAssixC ou VaultVarden. Là encore, un mot de passe maître solide et qu'il te faudra retenir pour de vrai sera nécessaire. Mais tout sera conservé de manière chiffrée et la base de données pourra être dupliquée pour sauvegarde.
Bon, je commence à y voir plus clair sur comment je vais améliorer ma pratique de gestion de mots de passe. Mais j'ai bien compris que ce n'était que le début de la démarche d'amélioration de la protection de ma vie privée et de mes données.
On verra dans le prochain épisode d'autres aspects de tout ça. On jouera à se faire peur avec des situations factices, mais réellement terrifiantes comme tu constates que le métro t'a volé ton smartphone, ou tu as malencontreusement laissé tomber ton ordinateur portable du deuxième étage de la tour Eiffel. Comment ta vie s'écroule? Combien d'années mets-tu pour t'en remettre?
Ça fait froid dans le dos et ça rafraîchit comme une bonne glace. Bon, je vais méditer là-dessus et faire des sauvegardes tout l'été. La bise, mon mot de papasse.
La bise, ma puce. Et n'oublie pas cette maxime. Un coffre-fort en bois, c'est mieux que rien. Mais c'est moins bien qu'un coffre-fort en mitril.
Nous venons donc d'écouter la chronique Sésame, ouvre-toi et prends-en de la graine de Laurent et Laurette Costi, que nous aurons le grand plaisir, et je sais que vous l'attendez, de retour à la rentrée en septembre pour une nouvelle saison de leur chronique à cœur vaillant, La Voix est libre. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Cette émission est la dernière de la saison. Nous allons préparer la prochaine saison qui débutera en septembre. Nous vous proposons de nous suggérer des sujets pour notre émission de radio, voire la possibilité d'intervenir ou peut-être même de préparer et animer un sujet principal. N'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact présent sur le site libreavous.org. Les CMEA recrutent. Les CMEA, Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, sont un projet d'éducation, d'éducation nouvelle et une association française d'éducation populaire. Laurent Costic, nous venons d'entendre dans sa chronique, qui travaillait pour les CMEA, a animé un sujet principal par mois lors de la saison actuelle. Nous relayons donc avec plaisir un recrutement en cours pour un poste de formatrice ou formateur pour accompagner et former le réseau des CMEA aux enjeux du libre et des communs à l'aide des outils libres utilisés en interne. Prise de poste possible à compter du 15 août 2023. Soirée rencontre radio ouverte ce vendredi 7 juillet à partir de 19h au studio de la radio au 22 rue Bernard Dimet, Paris 18e. Venez découvrir les coulisses de la radio, le studio, les voix derrière les micros. Vous pourrez rencontrer des animateurs et animatrices, découvrir le matériel et des logiciels utilisés. Une belle occasion de finir cette saison et je serai présent à cette rencontre. Je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Et sur libreavous.org, vous retrouverez tous les liens utiles concernant les annonces du jour. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Agnès Crépet, Laurent et Laurette Costi-Schreux. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Mélène Desnaux avec le soutien d'Étienne Gonu. Merci également aux personnes qui s'occupent tout au long de la saison de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel-Giraudon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet. Vous retrouvez sur notre site web libreavous.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Vous pouvez commenter l'émission, donner votre avis sur le contenu, nous faire des retours pour nous améliorer ou encore des suggestions. Et même mettre une note sur 5 étoiles si vous le souhaitez. En effet, il est important pour nous d'avoir des retours, car contrairement par exemple à une conférence, nous n'avons pas un public en face de nous qui peut réagir. Et cela nous ferait chaud au cœur de recevoir des témoignages d'amour éventuellement de celles et ceux qui nous écoutent. Pour cela, rendez-vous sur libreavous.org/181 pour l'émission du jour. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous en répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavous.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio. Pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46. C'était la dernière émission de la saison, place à la pause estivale. L'émission Libre à vous sera de retour en direct mardi 5 septembre 2023 à 15h30. Notre sujet principal portera sur le recrutement et la diversité de genre dans l'informatique et le logiciel libre. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, un bel été, de belles vacances si vous avez la possibilité de pouvoir en prendre. On se retrouve en direct mardi 5 septembre 2023 et d'ici là, portez-vous bien.